Dans l'actualité des idées, dans cette dernière partie de la Grande Table, les valeurs, avec la sociologue Nathalie Hennig, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de l'art contemporain, des professions artistiques, aux pratiques culturelles, de la question aussi de l'identité et de notre rapport aux valeurs. Déjà auteur d'une sociologie de l'art à la découverte de l'élite artiste, du paradigme de l'art contemporain, ou encore co-auteur de Par-delà le beau et le laid, les valeurs de l'art, un ouvrage paru aux presses universitaires de Rennes, elle revient avec un essai rassembleur des valeurs, une approche sociologique qui vient de paraître chez Gallimard, non, qui paraîtra demain. Une tentative de définition de ce mot valise, un mot si souvent utilisé qu'il en perd un peu tout son sens, il faut bien le dire. Qu'est-ce qu'une valeur? Autrement dit, qu'est-ce qui fait valeur? Point de départ, elles ne sont ni des réalités ni des illusions, mais des représentations collectives cohérentes et agissantes. Dans cet essai, la sociologue ne prend pas le parti de la philosophie morale qui hiérarchise les valeurs, sépare le bon grain, les vraies valeurs, de l'ivraie, les fausses valeurs. Elle ne dit pas ce qui est juste ou pas, mais s'attache à comprendre comment on attribue à la valeur, de la valeur à la valeur, par le prix, le jugement ou encore l'attachement, puis comment les différents objets valorisés se transforment en valeurs, comme la paix, le travail, la famille, et enfin comment ces processus d'attribution reposent eux-mêmes sur des principes largement partagés comme la vérité, l'altruisme, la sagesse ou peut-être même la probité. Nathalie Hennig, bonjour.
Bonjour.
Un mot, peut-être une réaction à l'actualité, même si vous n'êtes pas là pour ça, et à ce qui vient de s'exprimer à travers cette intervention de François Fillon, relayée par Camille Magnard. Donc, il ira jusqu'au bout, voilà ce qu'il nous dit. Derrière tout ça, derrière cette séquence politique qui est quand même très particulière, qui dure avec ses rebondissements et finalement un certain parti pris ou une continuité, est-ce qu'on peut s'exprimer autour de ces valeurs en politique, la probité notamment, l'intégrité, en fait-elle partie? Là, c'est le mot d'éthique qui a pu être prononcé.
Bien sûr, et on a vu la montée en puissance du mot même de valeur dans tous les débats politiques récents. Ce que je crois qu'il faut prendre en compte, c'est que d'abord, le mot valeur n'est pas, contrairement à ce qu'on le dit souvent, un mot de droite. C'est un mot qui, contextuellement, a été beaucoup utilisé depuis 10-15 ans par les partis de droite, mais qui a parfaitement pu appartenir et peut encore appartenir au vocabulaire de gauche. Une partie des valeurs qui sont considérées aujourd'hui comme prises en charge par la droite, comme la patrie, le travail, ont été d'abord des valeurs de gauche. Donc il y a un glissement contextuel du sens politique des valeurs. Donc je pense qu'il faut détacher la notion de valeur de la question politique, parce que la question des valeurs vient bien au-delà de la politique. Et ce qu'on vient de voir, ce dans quoi nous sommes actuellement, c'est, me semble-t-il, la question du contraste entre ce que j'appelle dans le livre des valeurs publiques, c'est-à-dire les valeurs que nous pouvons publiquement revendiquer, comme par exemple la probité en politique, et les valeurs privées, qui sont des valeurs que nous suivons effectivement, mais que nous ne pouvons pas forcément revendiquer publiquement parce qu'elles n'ont pas le même statut que ces valeurs publiques. Et par exemple, la valeur de maintien ou d'enrichissement du patrimoine familial peut être parfaitement, dans le contexte privé, une véritable valeur, sauf que dans le contexte public, notamment lorsqu'elle concerne un personnage public, un personnage politique, elle devient problématique. Et c'est la tension entre cette valeur privée et cette valeur publique qui éclate aujourd'hui.
C'est intéressant. Qu'est-ce que ça nous dit de ce qui fait valeur, finalement? Que c'est aussi la manière dont on les interprète à travers cet exemple que vous venez de donner,
c'est,
cette dualité de perception.
C'est bien sûr l'interprétation et c'est surtout le contexte. Puisque, encore une fois, dans un contexte familial, l'idée d'enrichir la famille est tout sauf problématique. C'est au contraire une véritable valeur. C'est donc la maîtrise des contextes dans lesquels nous invoquons telle ou telle valeur qui fait ce que j'appelle la compétence axiologique des acteurs. Alors, axiologique, c'est un mot qui a l'air très très méchant, mais en fait, c'est juste l'adjectif qui vient du grec valeur. On n'a pas en français d'adjectif qu'on peut utiliser sur le décliné à partir du substantif valeur, donc on utilise axiologique. Voilà. Donc, nous avons tous à disposition la même, ce que j'appelle grammaire axiologique, c'est-à-dire le même répertoire de valeurs. Nous avons tous la connaissance pratique du fait que dans n'importe quel contexte, on ne peut pas mettre en avant telle ou telle valeur. Mais évidemment, nous ne faisons pas varier de la même façon ces valeurs, ces principes en fonction des mêmes contextes et sur les mêmes objets, d'où des désaccords, des dissensions et quelquefois des contradictions profondes entre les actes et les propos. Et c'est à ce moment-là qu'intervient, me semble-t-il, l'intérêt d'avoir une problématique en termes de valeurs, non pas dans un sens normatif qui consisterait à dire quelles doivent être les vraies valeurs, mais dans le sens que j'essaye de pratiquer dans ce livre, à savoir un sens descriptif et analytique qui consiste à comprendre ce qui fait valeur pour les acteurs.
Et comment se construisent les valeurs ? Une question de Camille Blagnard.
Vous parlez de valeurs publiques, valeurs privées. Entre les deux, il y a des concepts dont on parle beaucoup en politique en ce moment, notamment l'identité entre public et privé. Comment est-ce que vous pouvez intégrer tous ces questionnements-là, ces valeurs-là, dans votre analyse ?
L'identité est en effet peut-être parfaitement utilisée comme une valeur. Ça peut être aussi une description factuelle, la façon dont les gens s'identifient eux-mêmes. Ça peut être aussi une valeur dès lors que l'identité est investie d'une dimension positive. Et c'est une valeur qui, en tant que valeur justement, a été d'abord mise en avant par la gauche au début des années 80. Donc elle a été ensuite, elle a glissé à droite, pour toutes sortes de raisons que les politologues expliqueront sans doute très bien. Et on voit bien en effet comment aujourd'hui elle enrichit un certain répertoire de valeurs à droite, alors même qu'elle peut faire l'objet d'un investissement qui est plutôt progressiste, disons, dans un autre contexte, et qu'elle peut aussi, surtout, espérons-le, faire l'objet de travaux d'analyse, de description de ce qu'est l'identité pour telle ou telle personne.
Camille, non ? Est-ce que vous avez réussi à vous arrêter à une définition de ce mot « valeur » Le mot « valeur » est quand même assez équivoque, c'est ce qu'on peut voir tout au long de votre livre. Vous avez tracé quel périmètre, du coup, pour tenter de l'aborder ?
Alors, j'ai une définition peut-être un petit peu mystérieuse, mais assez simple, qui est que la valeur, c'est la résultante de l'ensemble des opérations par lesquelles une qualité est affectée à un objet. Donc, ça veut dire que la valeur n'est pas dans l'objet, elle est la conséquence d'un acte. Et l'acte, c'est un acte qui est un acte soit de mesure par le prix notamment, soit d'attachement par des actes qui montrent qu'on est attaché à tel ou tel objet, soit, et c'est le plus fréquent, de parole, et la parole c'est le jugement de valeur. Nous sommes saturés de jugement de valeur, il suffit de sortir du cinéma et de voir à quel point nous aimons donner notre opinion sur le film. Donc notre vie sociale est pleine de jugements de valeur et ce sont ces jugements qui, à certaines conditions, peuvent produire de la valeur. Alors, ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est d'y voir un peu plus clair, parce que ça fait 35 ans que je travaille avec ce mot et cette problématique des valeurs. Je me suis dit, quand même, il serait temps d'essayer de comprendre un peu de quoi il s'agit, parce que c'est extrêmement utilisé sans qu'on l'ait jamais défini. Et je me suis aperçue qu'il y a en fait trois sens au mot valeur. Le premier sens, c'est au singulier la valeur. C'est l'équivalent de la grandeur, l'importance que l'on accorde à tel ou tel objet. Bon, une montre, par exemple. La valeur d'une montre, qui très souvent se manifeste par le prix qu'on lui affecte, mais le prix ça ne fonctionne que pour les choses, ça ne fonctionne pas pour les personnes, ni pour les actions, ni pour les états du monde comme la paix, etc. Bon. Le deuxième sens, c'est l'objet auquel est attribuée une valeur, qui peut être soit un objet concret, de l'argent par exemple, soit un objet abstrait, par exemple la paix, la république, la démocratie, ce sont des objets auxquels est attribué une certaine valeur. Et puis le troisième sens, et c'est celui qui m'intéresse le plus parce que c'est, me semble-t-il, celui qui a été le moins étudié par les sciences sociales, ce sont les principes au nom desquels on attribue une valeur à des objets qui vont devenir des valeurs au deuxième sens. Et ce sont ces principes que nous connaissons tous, la moralité, la beauté, l'authenticité, etc., etc., qui vont permettre construire des situations où tel ou tel objet sera affecté d'une valeur qui va en faire une valeur au deuxième sens du terme.
Et quel dénominateur commun, du coup, entre cette valeur jugement, quelque part, et cette valeur mesure, cette valeur prix que vous avez évoqué ?
C'est que très souvent, le prix est justifié par des jugements. Quelquefois, ça va de soi, la baguette de pain, on en discute rarement le prix. En revanche, dès lors qu'il y a une incertitude sur l'accord entre le prix et ce qu'est censé valoir l'objet en question, à ce moment-là, il va y avoir toute une série de discussions, de jugements de valeur qui vont permettre de modifier ou de maintenir le prix. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est qu'on a tendance à réduire la question de la valeur au prix. Alors, Ça a été évidemment pris en charge par l'économie et par la sociologie économique. C'est une problématique extrêmement importante. Mais je trouve qu'elle prend un petit peu trop de place parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est de travailler sur des choses qui ont été très peu étudiées, qui sont non pas le prix, mais les principes au nom desquels sont produits des jugements de valeur qui vont permettre d'attribuer de la valeur aux objets.
Et ça, on peut donner un exemple quand même à travers le marché de l'art contemporain que vous avez particulièrement étudié. Évidemment, c'est vrai qu'il y a des œuvres où le prix paraît complètement fixé de manière totalement délirante par rapport à ce qu'on estime être la valeur de l'œuvre.
Certes, mais c'est pas tellement le prix qui fait problème. Ça fait problème pour les gens qui achètent ou qui veulent vendre. Mais l'art contemporain tel que je l'ai étudié à travers ses rejets, ce qui pose problème aux acteurs, c'est sa valeur intrinsèque. Mmh. C'est l'idée que l'intérêt ou le prix qu'on attribue à une œuvre est démesuré par rapport à ce qu'est censé valoir l'œuvre. Et c'est en travaillant pas seulement sur l'art contemporain, mais notamment sur l'art contemporain, que je me suis aperçue à quel point cette problématique des valeurs nous éclaire dans la façon dont les gens s'orientent dans ce qui vaut ou ce qui ne vaut pas en art. Mais encore une fois, ce n'est pas que le domaine de l'art, bien sûr, qui est affecté par les valeurs. Tous les domaines de notre vie sociale sont saturés de valeurs.
Puisque l'on parle de la valeur donc de l'art, vous disiez, ça me fait penser à une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux en ce moment. On y voit un violoniste qui joue dans le métro, les gens passent, ne s'arrêtent pas, certains jettent une petite pièce et puis à la fin de la journée, il a ramassé 32 dollars, ça se passe aux États-Unis. Et puis on nous explique que c'est le plus grand violoniste du monde, que c'est les billets pour ses récitaux s'arrachent à des milliers d'euros, des milliers de dollars. Voilà, et interrogation sur qu'est-ce qui reste de la valeur de l'art quand on le sort de son contexte, quand on le sort de son discours, l'art contemporain notamment, sur lequel vous avez beaucoup travaillé.
Oui, c'est toute la question de compliqué pour travailler sur les valeurs, c'est qu'elles sont fonction à la fois de l'objet valorisé ou pas valorisé, du sujet qui valorise, ici les gens dans le métro, hein, et troisièmement, et on l'oublie trop, le contexte. Et évidemment, la valeur qui va être spontanément affectée à un musicien dans le métro ne va pas se faire avec les mêmes critères que la valeur qui va être affectée au même musicien dans une salle de concert par des experts de musique, ce que ne sont pas les passants dans le métro. Et donc c'est cette tripartition entre l'objet, le sujet, le contexte d'évaluation qui construit la valeur, qui construit la valorisation. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte, d'où la difficulté d'utiliser les outils traditionnels de la sociologie pour étudier ces processus de formation de valeur, parce que le contexte est très important et qu'on ne sait pas encore, en tout cas de façon quantitative, mesurer des choses qui varient selon le contexte.
C'est difficile aussi de mesurer le jugement ou de juger les jugements, mais vous dites qu'on peut aussi au jugement substituer l'opinion. Or là, tout particulièrement puisqu'on est encore dans cette période de campagne présidentielle, jamais on a autant tenté de sonder, de mesurer l'opinion. L'opinion publique n'existe pas, hein, nous disait Pierre Bourdieu, et pourtant on est constamment sommé d'avoir une opinion, hein, d'opiner quelque part et de produire de l'opinion.
Oui, l'opinion est au cœur de cette forme très importante d'attribution de valeur qu'est le jugement de valeur. Donc nous sommes absolument dans une vie pleine d'opinions, nous donnons beaucoup notre opinion, mais ces différentes opinions n'ont pas forcément le même impact et ne sont pas forcément vulnérables au même type de description. Les sondages d'opinion nous ont habitués à une quantification des opinions, mais qui repose en général sur des bases assez appauvries, hein, du point de vue de la richesse avec laquelle les gens donnent leur opinion. On ne prend pas, me semble-t-il, suffisamment en compte la différence entre le jugement d'un simple citoyen et le jugement expert. Et dans le livre, j'ai essayé de montrer les énormes contraintes auxquelles sont soumis les experts lorsqu'ils donnent leur opinion, puisque contrairement à l'opinion d'un quidam, l'opinion d'un expert va avoir un impact. L'opinion d'un membre du jury du Festival de Cannes sur le film va avoir un impact immédiat sur l'éventuel prix qu'aura ce film et du même coup sur sa carrière, alors que notre opinion à la sortie du cinéma n'a strictement quasiment aucun impact.
Voilà. On peut faire les étoiles Michelin aussi pour un restaurant.
Absolument.
On a le même type d'exemple. Voilà, tout ce qui sont ces systèmes de mesure, de graduation, effectivement, de ces objets. En
voilà,
fait,
hein. Et qui sont, donc, dans le cas de l'opinion de l'expert, sont contraintes de façon telle qu'elles sont. On attend de ces opinions qu'elles aient non seulement une objectivité, mais en plus une agentivité, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire une action sur le monde. D'où la responsabilité très forte, hein, des experts de ce point de vue-là.
Mais qu'est-ce que ça nous dit justement de constater que l'on est pas tous égaux finalement devant la prise ou la formulation d'opinion.
Oui, alors c'est aussi ce que j'ai compris en travaillant sur cette question de l'opinion, c'est que en fait l'opinion ça va du silence au silence. Donc le premier silence est celui de celui qui ne se sent tellement pas autorisé à avoir une opinion qui préfère se taire. C'est les fameux sans opinion dans les sondages d'opinion qui, à propos desquels Pierre Bourdieu avait écrit ce fameux article, l'opinion publique n'existe pas à cause de la non prise en compte des non-réponses. Bon, il y a ensuite l'opinion quasi obligée de nous tous dans une situation où alors qu'est-ce que vous en pensez, et Fillon, vous êtes pour, vous êtes contre. Bon, on est soumis tout le temps à un bombardement de demandes d'opinion. Il y a ensuite donc l'opinion des critiques et des experts qui eux sont professionnellement habilités à donner leur opinion et encore une fois une opinion qui compte au sens où elle va avoir une action. Et puis il y a le silence, mais cette fois-ci un silence par excès de compétences et non pas par défaut de compétences, qui est celui de toutes ces professionnels qui ne sont pas censés donner une opinion personnelle, soit parce qu'ils sont fonctionnaires et donc soumis au devoir de réserve, soit parce qu'ils sont chercheurs et du même coup investis d'une capacité à produire non pas de l'opinion personnelle, mais du savoir objectif qui invalide plus ou moins la question de l'opinion personnelle.
Nathalie Yannick, qui fixe les valeurs finalement ?
Qui fixe les valeurs ? Elles sont fixées de façon, encore une fois, contextuelle, mobile, c'est-à-dire qu'elles peuvent évoluer, comme nous le voyons tous, avec des degrés divers de compétences à fixer ces valeurs. Évidemment, le responsable de déontologie dans un grand journal ou une entreprise aura plus de capacité à fixer les valeurs de l'entreprise ou du journal que le passant dans la rue. Bon, voilà. Et donc, nous avons des métiers qui sont des métiers de production et de fixation de valeurs, même si par ailleurs le citoyen ordinaire peut parfaitement considérer que il n'est pas d'accord, par exemple, avec telle ou telle façon d'aborder la question de la valeur affectée à tel ou tel objet. C'est un dispositif complexe, mais dont j'essaye de donner, un peu comme un grammairien qui donnerait la règle de la langue que nous parlons tous, j'essaye de donner les règles implicites que nous observons tous en faisant des jugements de valeur, en manifestant des attachements, en donnant des prix, mais sans forcément savoir quelles sont les règles que nous utilisons.
Donc vous avez dû, vous, comme sociologue, réussir à vous débarrasser, parce que c'est la particularité de ce livre, des valeurs, une approche sociologique de tous vos propres jugements de valeurs, pour éviter de moraliser quelque part cette question, pour éviter de vous laisser happer parce qu'ils sont finalement
des idées reçues. Oui, et ça c'est un gros sujet de controverse aujourd'hui en sociologie, puisque j'ai fait ce travail en essayant de garder ce qu'on appelle une neutralité axiologique, c'est-à-dire de ne pas faire intervenir mes propres valeurs dans mon observation des valeurs des gens, parce que j'estime qu'on ne peut pas travailler sur les valeurs et essayer d'imposer ses propres valeurs. C'est absolument antinomique, y compris lorsque ce sont des valeurs morales et politiques.
La neutralité, c'est une valeur aussi ?
C'est un outil. C'est un outil épistémique. Donc on est sur un niveau qui n'est pas celui des valeurs ordinaires, mais des contraintes que se donnent les scientifiques pour faire leur métier, c'est-à-dire produire du savoir. Et évidemment, cette posture de neutralité est assez contestée aujourd'hui parce que pour beaucoup de sociologues, leur moralité consiste au contraire à peser sur le monde, à peser sur la politique et à essayer de soutenir ce qu'ils estiment devoir être soutenus et d'attaquer ce qu'ils estiment devoir être attaqués. Pour moi, ça, c'est totalement incompatible avec mon métier et de ce point de vue-là, je suis tout à fait en porte-à-faux avec des courants beaucoup plus connus aujourd'hui, notamment de sociologie critique. J'ai essayé de faire une sociologie non critique des valeurs, une sociologie descriptive, analytique, non normative donc, et une sociologie en même temps qui sort du schéma explicatif dans lequel, me semble-t-il, une grande partie de la sociologie est un peu trop enfermée aujourd'hui, qui consiste à prendre un objet et à essayer d'en déterminer les causes extérieures. Je ne dis pas que la cause de telle valeur, c'est le capitalisme ou autre chose. J'essaye au contraire de comprendre de l'intérieur les raisons pour lesquelles les acteurs adhèrent ou pas à telle ou telle valeur. Et c'est un tout autre modèle de sociologie.
C'est ça qui vous a mis en rupture avec le courant bourdieusien dont vous étiez issu au départ et dont vous êtes aujourd'hui une des grandes figures critiques.
Je connais bien en effet le courant bourdieusien pour avoir fait ma thèse avec Bourdieu, et donc je sais bien ce qu'il en coûte intellectuellement pour sortir de ce modèle à la fois uniquement explicatif et foncièrement critique, qui est celui de la sociologie de Bourdieu, qui par ailleurs a de grands avantages, hein, qui a fait des avancées remarquables, mais qui aussi, me semble-t-il, bloque un certain nombre de problématiques, et notamment la problématique des valeurs, qui tend à être interprétée par une partie des sociologues comme d'abord quelque chose de politiquement funeste, trop marqué à droite, alors que encore une fois, moi je l'analyse de façon neutre, sans me demander si c'est de droite ou de gauche, parce qu'encore une fois c'est très variable contextuellement, et donc j'essaye de me départir de cette volonté d'agir sur le monde à travers mon métier de sociologue. J'essaye simplement de comprendre le monde et de donner des outils pour l'expliquer, ce qui me paraît déjà suffisamment important.
Et en cela, les valeurs peuvent prendre parfois trop de place, c'est ce que vous me dites?
Non, au contraire, je trouve qu'elles ont été insuffisamment travaillées par la sociologie. D'abord parce qu'elles ont été assimilées à tort à soit des valeurs de droite, soit la dissimulation d'intérêts cachés. Or, me semble-t-il, la question des valeurs va bien au-delà de cette question des intérêts. Elle va bien au-delà de la question des normes, qui tend à prendre beaucoup de place aussi dans la sociologie. Les normes, ce ne sont que les conséquences des valeurs pour l'action. J'ai essayé, moi, de remonter en amont des normes pour comprendre les principes au nom desquels ces normes sont proposées et imposées. Et donc, de ce point de vue-là, il me semble que la sociologie a un immense territoire à explorer qui n'a encore été très très peu travaillé et dont j'espère qu'il va continuer à être exploré.
Nathalie Hennig, vous dites aussi que quelque part la sociologie jusqu'ici c'est un peu trop concentré sur les disputes, sur les différences, sur ce qui sépare finalement, sur ce qui est conflit, que ce soit les effets de domination, la question des inégalités, qui serait peut-être pas mauvais aujourd'hui de replacer un peu au cœur de cette sociologie, au cœur en somme de la vie sociale, ce qui fait consensus hein, quelque part. Donc vous plaidez pour une approche plus, plus apaisée finalement, plus consensuelle.
Pas forcément plus apaisée, mais il me semble que la vie sociale est faite à la fois de différences et de similitudes. De conflits et d'accords. On voit souvent beaucoup moins les accords que les conflits parce que par définition, les conflits font plus de bruit. Du point de vue méthodologique, il est toujours plus facile pour un sociologue de travailler sur des situations de controverse parce que ces situations amènent les gens à expliciter les raisons de leurs désaccords et du même coup, ça donne un matériau beaucoup plus riche que les situations d'accord. Mais ça n'est pas une raison pour considérer qu'il n'y a dans la vie sociale que du différent et de la dispute, alors même que notre vie est heureusement faite de façon silencieuse d'énormes de moments d'accord, de valeurs que nous avons en commun, de conceptions, de représentations que nous avons en commun. Et dans ce livre, j'essaye justement de mettre en évidence ce qui est commun dans notre répertoire de valeurs, quitte à travailler pour cela à partir de situations fortement contextuelles, par exemple les débats sur la corrida, hein, qui ont été à l'origine de mon intérêt pour les valeurs.
Eh bien justement, parlons un petit peu corrida. La corrida, c'est le sujet type qui, en termes de valeurs, d'opinion, de jugement, divise les Français, et pas seulement. Écoutez.
Un taureau, on ne le tue pas n'importe comment, on le tue en le regardant bien dans les yeux et en se faisant frôler les cornes. C'est un spectacle, en fait, de sadisme autorisé, puisque la loi l'autorise et le permet. Donc les gens qui viennent assister à des corridas, évidemment, sont animés par des pulsions extrêmement suspectes, voire malsaines, parce que assister à un spectacle sans éprouver aucune compassion et de pitié pour un animal innocent qui se fait charcuter à l'arme blanche sans éprouver de la pitié, tout simplement, c'est absolument insupportable sur le plan éthique.
Nathalie Hennig, sur cette partition des valeurs.
Oui, alors c'est en fait le cas de la corrida, c'est celui qui m'a amené à la problématique des valeurs. C'était quand même il y a 35 ans à peu près, donc c'est pas tout jeune. J'avais été frappée par la permanence et l'irréductibilité des débats entre partisans et adversaires de la corrida. Et j'avais été frappée également par ma propre incapacité à prendre parti. C'est-à-dire que, lisant les arguments des uns et des autres, je les trouvais tous convaincants.
Mais à prendre parti à quel titre, alors, du coup?
À titre personnel, à titre purement personnel. Mon jugement de valeur était totalement bloqué parce que je trouvais que les partisans de la sensibilité à la souffrance animale avaient raison et qu'en même temps, les partisans de l'intérêt pour une tradition ancestrale morale et pour un spectacle qui peut être considéré comme une œuvre d'art était aussi tout à fait convaincant. Et donc j'ai voulu aller voir et je me suis donc intéressée à ce qui se passe dans ces débats-là, qui est en fait ce que j'appelle un affrontement entre un registre de valeurs éthiques et un registre de valeurs esthétiques. Et le problème, c'est que les gens qui sont dans l'un ou l'autre registre ne peuvent pas se comprendre, tout simplement parce qu'ils n'utilisent pas le même type de valeurs dans le même contexte, et que donc il ne peut pas y avoir de débat au sens de débat argumenté, de questions-réponses, d'objections. Il y a simplement un affrontement quasiment sans issue en raison du caractère très antinomique de ces familles de valeurs, de ces registres de valeurs. Et à partir de là, j'ai commencé une sorte de collection de cas d'affrontement entre éthique et esthétique. Alors, les cas de censure sont presque toujours des cas de ce type-là. L'autofiction, par exemple. Et c'est à partir de là que j'ai décidé d'aller plus loin, de m'apercevoir qu'il n'y a pas que deux registres éthique et esthétique, mais pour le moment, j'en ai 16. Alors, il y en aura peut-être plus que ça, mais on a une gamme de registres de valeurs assez élevée, et à l'intérieur de chaque registre, plusieurs valeurs possibles qui se ressemblent, qui ont des affinités et qui permettent donc aux gens de se repérer dans ce monde des valeurs.
Alors ce qui est intéressant sur cette question de la méthodologie, c'est qu'il y a aussi un philosophe, Francis Wolff, que vous connaissez bien, qui a lui tenté une philosophie de la corrida. C'est intéressant de voir lui sur quel type de valeurs, d'axes justement, de repères, il tente de construire cette philosophie de la corrida.
Je pense que il y a deux sortes de traitements vraiment barbares des animaux.
Oui.
Le premier, ça consiste à considérer les animaux comme des choses. Par exemple, dans l'élevage industriel, l'élevage en batterie, là, il y a une marchandisation du vivant insupportable due au productivisme contemporain. Ça, c'est vraiment les conditions de vie réduites à des choses, des cochons qui ne voient jamais le jour, etc. Puis il y a une autre façon qui est tout aussi barbare, c'est considérer les animaux comme des personnes, à l'égal des personnes. Parce que quand vous commencez à considérer les animaux comme des personnes, il n'est pas loin le moment où on va considérer les personnes comme des animaux. Alors, la corrida, elle n'est ni l'un ni l'autre, parce qu'on considère l'animal comme un animal.
On a le...
Oui. Alors, ce que dit Francis Wolff, en tant que philosophie morale, est très intéressant, mais justement, j'ai essayé de faire tout sauf ça. C'est-à-dire que, en tant que sociologue, je ne prends pas parti, je n'essaye pas d'argumenter pour ou contre, j'essaye de comprendre la logique des arguments de ceux qui sont pour et de ceux qui sont contre. Ce qui est intéressant dans cet extrait, me semble-t-il, c'est qu'il met l'accent sur une autre des difficultés pour travailler sur la question des valeurs, c'est l'extrême labilité du statut des objets de nos jugements de valeurs. Il montre bien ici ce que tous les sociologues savent, que les animaux sont à une frontière entre la chose et la personne et que selon les contextes, on pourra avoir soit un animal de compagnie qui sera une quasi-personne, soit une pièce de boucherie qui sera une quasi-chose. Bon. Et que c'est cette labilité, cette mobilité de cet objet sur cette frontière entre chose et personne qui va se manifester par les différentes mobilisations de jugement de valeur porté sur cet objet et qui va expliquer donc du même coup l'extraordinaire variété des positions qui peuvent être prises à propos de l'objet, souvent de façon parfaitement sincère, parce que ceux pour qui dans ce contexte l'animal est une chose ne comprennent même pas qu'on puisse le traiter comme une personne et réciproquement. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi les gens ne se comprennent pas. Je l'ai fait à propos de la corrida, je l'ai fait à propos de l'art contemporain, j'essaye de le faire à propos d'autres objets et je pense que c'est vraiment le rôle du sociologue, plutôt que de prendre parti.
Alors vous faites une sociologie des valeurs, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une histoire des valeurs, une histoire de nos sociétés à travers les valeurs dominantes de l'opinion à un moment donné?
Alors oui, c'est ce qu'ont fait un certain nombre d'historiens ou de sociologues, par exemple Norbert Elias a fait une magnifique sociologie historique de la valeur de civilité, Philippe Ariès a fait une très belle analyse historique de la valeur accordée à l'enfance, Pierre Nora a fait un magnifique travail sur la valeur accordée à la mémoire. On peut relire ce que j'ai fait aussi dans le livre, la façon dont l'histoire et l'anthropologie ont pris en charge l'étude de l'évolution des valeurs, soit dans le temps avec l'histoire, soit dans l'espace avec l'anthropologie. Et c'est donc l'étude de la façon dont un certain nombre de biens abstraits ont pu être investis d'une valeur dans certaines circonstances, et du coup évolue selon ces circonstances.
Alors aujourd'hui, oui Camille, on parle beaucoup de ces valeurs valeurs comme les valeurs de la République qui sont censées nous rassembler, nous réunir derrière un drapeau commun. Mais ce que vous avez l'air de nous expliquer aussi, et c'était le cas avec la corrida, c'est que les valeurs peuvent aussi diviser. Les valeurs sont quand même des productions qui sont autant personnelles et subjectives que collectives, en tout cas dans la croyance ou la défense qu'on peut en faire.
Elles sont vécues individuellement tout en étant des outils collectifs, puisque nous avons tous à peu près à disposition les mêmes valeurs. Ce sont des objets collectifs, mais qui sont vécus de façon très profonde comme des objets d'investissement individuel, ce qui explique la dimension fortement émotionnelle du rapport aux valeurs et le fait que lorsque nous avons une émotion très forte, par exemple une indignation, nous pouvons être quasiment certains qu'il s'agit d'une infraction à une valeur à laquelle nous tenons. Donc il y a un lien très fort entre les valeurs et les émotions. Et une autre contradiction qui est propre à la définition même des valeurs et qui en fait la difficulté pour celui qui l'étudie, c'est que les valeurs sont à la fois objectivement relatives, elles évoluent selon les contextes, et en même temps, elles sont vécues par les acteurs comme étant absolues, universelles, et devant être défendues comme des absolus universels. Et c'est cette dualité du statut de la valeur qui en fait à la fois la richesse et en même temps la difficulté d'analyse.
Pour revenir à la dimension publique, peut-être politique même, de ces valeurs dont vous parliez au début de l'entretien, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe aussi qui ferait que plus on parle et plus on invoque une valeur, plus on l'utilise dans le champ politique, plus on la démonétise et on lui enlève justement de la valeur ?
Alors, je dirais les choses autrement. Je dirais qu'avec l'amélioration des moyens d'information et surtout de la diffusion de l'information, notamment avec les réseaux sociaux et aussi avec les progrès de la presse, il y a des possibilités de plus en plus grandes de mettre en évidence des infractions aux valeurs dans les actes, et notamment les actes des personnes politiques qui sont les premières à devoir se soumettre à la contrainte des valeurs. Et je pense que c'est cet écart entre les actes et les paroles normatives, les valeurs, que mettent en évidence les journalistes, la presse, éventuellement relayée par la magistrature lorsqu'il y a effectivement des infractions à la loi. Et c'est cela qui crée la situation de très forte contrainte où se trouvent les personnalités publiques, contrainte qui va se manifester notamment par leur propension à invoquer des valeurs, parce que c'est évidemment le plan sur lequel ils ne peuvent pas être contestés autrement que par une éventuelle mise en évidence d'une infraction à ces valeurs.
Valeurs qui sont pour vous quand même assez souvent encore aujourd'hui instrumentalisées ou manipulées quelque part dans cet objectif ou simplement on peut aujourd'hui brandir des valeurs pour tenter de faire corps.
Les deux sont possibles. Le problème, c'est que nous avons d'abord accès aux cas problématiques, puisque c'est ça qui fait l'actualité, et que nous avons le sentiment que le monde politique est plein de gens qui font des infractions à leurs propres valeurs. Non, c'est pas vrai. C'est que simplement, ce sont ces infractions qui sont rendues publiques, par définition. Par ailleurs, notre monde est plein de situations où nous respectons un certain nombre de valeurs. Des valeurs d'égalité, d'ordre, d'équité. Nous traversons la rue en faisant attention à ne pas écraser les gens, etc., etc. Bon. Nous respectons tous énormément les valeurs et c'est ce qui fait l'état de paix hein, dans la vie sociale. Le problème, c'est que nous avons accès par l'information plutôt aux états de dissonance, hein, de décalage. Et c'est ça qui peut nous donner à tort le sentiment que notre vie sociale n'est faite que d'hypocrisie, de cynisme et d'invocation des valeurs là où elles ne sont pas suivies. Et je crois que ce sont plutôt des exceptions que la règle.
La sociologie des valeurs n'a rien à voir avec une quelconque éthique. Aider à chacun à comprendre ce que sont ces étalons ultimes, prendre conscience de cela pour pouvoir penser notre système de valeurs. Merci beaucoup Nathalie Hennig, Des valeurs, une approche sociologique, un ouvrage qui vient de paraître aux éditions, ou qui paraît demain, je vais y arriver, aux éditions Gallimard. Émission conçue et préparée par Claire Maillot, Clémence Marie, Henri Leblanc et Nicolas Dutant avec Isotica et Inès McGriff. Merci beaucoup à Perret Legras avec Jacques Azubert qui était aujourd'hui aux manettes. À demain.